I'd like to introduce you to
Gravel dans le narrator.
Oui, c'est vrai.
Boulevard 102.1.
Bon lundi, bon début de semaine, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, moins 2 degrés, quelques flocons, faible neige d'ailleurs qui est prévue pour les prochaines heures, 2 cm d'accumulation par endroit, toujours des rafales de vent à 50 km/h, le maximum est tout près à moins 1 degré. La neige se poursuit ce soir et cette nuit, 2 cm supplémentaires avec un minimum de moins 7 degrés. Pour le reste de la semaine, demain, alternance soleil-nuage, maximum 1 degré. Alternance soleil-nuage également pour la journée de mercredi avec un maximum de moins 4. Ça pourrait tomber en neige jeudi avec un maximum de 0 degré. Les températures un peu plus hivernales ne sont pas terminées. Vendredi, on prévoit un maximum à moins 10, un minimum à moins 20 degrés. On sera le 27 mars. Pour nous rejoindre en studio, le 418-971-1021 par texto, si vous utilisez le téléphone 418-780-1021, vous pouvez nous jaser directement sur le Messenger de Boulevard 102.1. Il y a des choses à signaler dans votre monde et dans le nôtre. Écrivez à notre journaliste Mathias Turcotte, citoyen à blvd.fm. Vous avez l'application Boulevard pour nous écouter en tout temps, pour rattraper ce que vous avez manqué également. On a une chaîne YouTube, on a le blvd.fm et on a le Twitch avec l'accès aux caméras en studio, twitch.tv, la chaîne BLVD par en dessous FM. Mon nom est Denis Gravel. Le retour s'installe dans les prochaines minutes jusqu'à 18h. Véro, bonjour.
Bonjour.
Audrey, bonjour.
Hello.
Tout le monde va bien?
Oui, j'ai épuisé.
Comment ça? C'est lundi. Hein? Ouais.
Ça vous fait pas ça, vous autres, le dernier bout avant les vacances, de comme d'avoir l'impression que tout arrive tout trop en même temps et que c'est dur de trouver un équilibre?
Tu t'en vas dans quelques jours?
Oui, dans 6 jours.
T'en vas où?
Je m'en vais en Italie avec des copines.
La vie est belle.
Je pense que j'ai jamais été profondément jalouse de Véro depuis qu'on se connaît. Puis là, ça me tiraille en dedans tellement que je l'aime.
Audrey, ça va tellement vite que je me rends même pas compte de ce que je m'en vais faire.
C'est capoté.
J'ai essayé de commencer mes bagages hier. Tout ce que j'ai fait, c'est du foutu lavage parce que, tu sais, ici, c'est encore dégueulasse. Fait que j'ai pas sorti du vrai linge depuis.
Ça sent le ramasseux.
Puis là, ça n'arrivera pas. C'est comme, c'est tellement fucké. Puis là, je me dis, hey, non, c'est bien trop vrai.
Tu pars quand exactement?
Dimanche.
Dimanche.
Dimanche. Dimanche, c'est nos vols qui nous amènent vers Rome. Là. Puis tout va trop vite. Il n'y a rien qui va sur le sens du monde. Moi qui est habituée d'être organisée, là, j'ai perdu le contrôle de la situation.
C'est peut-être une question un peu épaisse, mais le fait qu'il y a eu un accident d'avion dans les dernières heures où des gens ont trouvé la mort, ça te joue-tu dans la tête avant de partir en voyage comme ça?
Tu sais, moi, je suis pas une fille qui est peureuse en avion. En fait, c'est pas ça. Je sais qu'en avion, je ne contrôle rien.
Mm-hmm. Mm. Ce qui est un feeling horrible en passant. Là.
Oui, mais à un moment donné, t'as pas le choix de l'accepter. Ouais. Tu sais, quand ben même, tout ce que je peux contrôler, c'est ma manière de réagir à l'intérieur de l'avion. Fait que, mettons, quand il y a des grosses turbulences ou quoi que ce soit, un accident comme aujourd'hui, qui a coûté la vie à 2 pilotes, qui fait qu'actuellement, il y a des personnes qui sont hospitalisées avec des blessures graves. D'ailleurs, un des pilotes, son identité a été confirmée. C'est un gars de 30 ans de la Montérégie. Là.
Mm-hmm.
Il devait commencer sa carrière depuis quoi, une dizaine d'années à peu près, gros max, même pas. Là.
C'est le jeune qu'on voit à la télévision. Je n'avais pas
Antoine
vu encore.
Ouais, c'est un flow qui devait vivre sa passion. Parce que quand tu deviens pilote d'avion, c'est pas le dernier choix que tu as fait dans ta liste de choix de carrière. Habituellement, c'est le premier.
Souvent, c'est sur un bucket list.
C'est sur un bucket list, puis tu sais que tu espères que tu aies la vue, que tu aies les aptitudes physiques, tu sais que tu aies tout pour être capable de devenir pilote. Mm. puis tout ça en ligne vers, puis tu sais, il y aura les rapports, puis tout. C'est une erreur de communication. Y a-tu quoi de plus batte qu'une erreur de communication qui cause la mort de deux pilotes d'avion? Puis, tu sais, j'ai bien beau te dire, ah oui, mais tu sais, ça vient d'arriver, ça arrivera pas la semaine prochaine. Mm-hmm. Tu sais, l'année passée, l'avion qui a viré de top à l'aéroport de Toronto, je partais pas longtemps après pour Toronto.
Ça aurait pu être la tienne.
J'y ai pensé. Puis, tu sais, je veux pas y penser parce qu'on s'arrêtera pas de vivre. Tu sais, je peux me faire frapper en traversant la rue à soir.
Bien, c'est parce qu'on revient toujours un peu aux mêmes constatations. Puis, j'ai encore entendu la phrase de nombreuses fois aujourd'hui, entre autres sur nos ondes, que le transport aérien est le transport le plus sécuritaire au monde.
Des milliers d'avions qui passent par LaGuardia.
C'est juste qu'on prend l'avion. En tout cas, je pense que le commun des mortels, on prend pas l'avion souvent.
Non, c'est exceptionnel.
On se pose pas la question le matin en partant en char. Hey, il y a eu un accident mortel en fin de semaine. T'as-tu peur de prendre ton auto?
Absolument pas.
Parce que l'auto, on la prend à tous les jours. L'avion, c'est un petit peu plus exceptionnel, mettons. Puis parce que c'est un peu plus exceptionnel, c'est sûr que n'importe qui part dans les prochains jours va avoir ça dans la tête.
Mais tu y penses. Puis tu sais, je me doute que dans ce temps-là, on resserre encore plus la sécurité. Puis on s'en parlera tantôt. Mais du côté des États-Unis, par rapport à tout ce qui est contrôleur aérien, il y a eu des shutdowns. Il y en a qui ne sont pas payés. Il y en a qui ont choisi de quitter leur emploi. Fait qu'il y a un manque de personnel. Il y en a d'autres qui ont 2-3 jobs. Il y a de la fatigue qui rentre là-dedans. Il y a une guerre actuellement qui se fait entre républicains et démocrates sur le dos de certains corps d'emploi. Puis les corps d'emploi de contrôleurs aériens rentrent là-dedans. Fait que celui qui a calé le camion de pompier pour traverser la piste 4 puis qui a fait « Wow, arrête! » puis que l'avion l'a accroché, lui, là, c'est pas mal persuadé qu'il ne fera plus jamais sa job de sa vie.
C'est sûr.
Mais que ça sera peut-être même un choix personnel. Mm-hmm. T'sais, quand t'as ça sur la conscience, alors que ta job, c'est d'assurer la sécurité d'engins tellement gros.
Il y a des jobs ingrates où tu ne peux pas faire d'erreur.
Exact.
Mais tu le sais quand tu te lances dans ce champ de compétences-là.
Tout à fait. T'sais, qu'il y a une imputabilité qui est plus grande que la norme.
Je sais que l'histoire de l'avion fait beaucoup plus jaser de l'histoire de la petite fille qui est morte en faisant une crise d'asthme dans un hôpital. C'est une histoire à briser le cœur. La mère qui en a parlé sur les réseaux sociaux en fin de semaine.
Du côté de Gatineau, ça, c'est
du côté de Gatineau, effectivement. Puis elle a dit, tout le long que j'ai été là avec ma fille, j'ai eu l'impression d'être traité comme du bétail, comme un numéro. Il a fallu que je hurle pour qu'on m'entende parce que ma fille avait des problèmes à respirer puis personne me prenait au sérieux, tu sais. Et je me dis, il y a des gens qui ont banalisé un cas sans peut-être trop le regarder puis qui vont avoir la mort de cette petite fille-là sa conscience. Il y a des jobs où tu peux pas te permettre d'erreur parce que quand tu fais une erreur, il y a du monde qui meurt.
Exact.
Tu sais,
quand tu peux pas te dire « j'ai tout fait pour pas que ça arrive », mais là, c'est sûr que ça, tu l'as sa conscience. Là.
Nous autres, on peut se tromper. Là. Puis je pense qu'on est dans un média où c'est pas compliqué de revenir et de dire « Hey, tantôt, on vous a vraiment donné la mauvaise information. J'ai vraiment dit une connerie, ça a fâché du monde. Je m'excuse, on passe à autre chose. » Tu sais, 99% du temps, il n'y a pas de conséquences fâcheuses et c'est récupérable. Un contrôleur aérien qui se fourre dans ses communications, c'est un avion qui rentre d'un troc de pompiers et il y a des morts. T'sais, quelqu'un qui se fourre parce qu'il a sous-évalué la condition d'une jeune patiente, ben c'est une maman qui est en deuil de sa petite fille. C'est des histoires à arracher le cœur. Puis, tu sais, moi, je serais pas capable de faire ces jobs-là à cause de ça.
À cause de la pression qui vient avec?
Ben c'est parce que la journée où t'en es... Oui,
Denis,
c'est un sujet qui est encore sensible pour moi, mais... Tu sais, on a un département de chirurgie cardiaque qui est extraordinaire ici à l'hôpital, ici au CHUL. Puis c'est des choses auxquelles j'ai pensé quand j'étais à l'hôpital avec mon jeune fils qui était en attente de son opération. Puis tu te dis, hey, ils ont un taux de succès qui est incroyable. Puis je me souviens pas du chiffre. Tu sais, 99,9% des opérations se déroulent bien. Moi, je faisais juste penser dans ma tête, ouais, ça veut dire qu'il y a 0,1% des opérations qui se déroulent pas bien. Puis eux autres, ben, quand ça se déroule pas bien, il y a quelqu'un qui meurt sur la table. Là. Comment tu fais pour revenir à la job le lendemain, tu sais? C'est bien pire qu'un gardien de but qui échappe un croton puis qu'il faut qu'il goal la game d'après. Là. Au pire, tu perds ton contrat de Mike Sherona puis ils mettent Matheson à ta place. Là.
Puis c'est pas la fin du monde.
C'est pas la fin du monde. On fait des farces, là, mais c'est un beau. les gens qui acceptent de faire ces jobs-là
choisissent.
Acceptent d'être condamnés à ne pas faire d'erreur ou encore à porter un poids, mon Dieu Seigneur, que je ne sais pas comment qu'ils vont faire. Puis tu parles du contrôleur aérien qu'on entend dans les communications.
Qui dit que c'est de sa faute.
I fucked up, c'est pas un mauvais but puis une victoire des sénateurs. Là, c'est I fucked up, deux morts. C'est ça, deux morts?
Oui.
Hey, mon Dieu, je sais pas comment tu peux poursuivre une vie.
Je sais pas non plus. J'ai fait une erreur à un moment donné. J'en ai fait plein là, dans ma job, mais j'en ai fait une que
Même avec un peu plus d'impact. Maintenant.
Ouais, j'en ai fait une pendant la couverture d'un palais de justice, puis c'était vraiment une erreur de bonne foi, de gars fatigué qui s'en est rendu compte. Mais que j'ai pas su comment revenir. Pour les gens qui se souviennent pas, c'était le procès de la prostitution juvénile. J'étais au Palais de justice de Montréal. Je faisais de la couverture pour 4 émissions de radio. Puis à un moment donné, j'ai échappé le nom d'une des victimes en nombre. Parce que c'est des noms au Palais de justice qu'on entend constamment.
Dont l'identité était protégée.
Exact. On n'avait pas le droit de les nommer. Le lendemain matin, je me suis fait sermonner devant tout le monde au Palais de justice par le juge du procès. Il y a des gens qui se sont beaucoup amusés parce que c'était leur première opportunité avant les réseaux sociaux de donner une bonne baffe à André Arthur, à Jeff Fillion, à Radio X et ainsi de suite. Fait que j'étais comme le gars qui a mangé à voler pour tout le monde. Puis en même temps, c'était mérité. Là, j'essaie pas de me justifier ou de m'excuser. J'ai mal fait mon travail puis j'ai commis une erreur. T'sais. Puis c'est une erreur que j'ai portée longtemps, que je porte encore dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais maintenant, je m'en sers. Quand je vois des gens qui font des erreurs, je leur parle de la mienne. Mm-hmm. Puis plus souvent qu'autrement, ils trouvent ça moins pire la leur que la mienne. Puis je travaille encore en radio. Fait que je trouve que il y a un beau message là-dedans quand même.
Sans réduire, évidemment, ce que tu as...
Mais j'ai pas tué personne.
Ce que ça amène, mais c'est ça, il n'y a pas une charge. La vie de personne est en danger. Mm-hmm. Tu sais, j'ai comme l'impression que dans des cas comme ça... Et pour vrai, j'ai pitié d'une certaine manière pour ce pauvre contrôleur-là qui probablement va devoir faire de la thérapie en tabarnouche pour être possiblement capable.
C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais été négligent dans sa job. Là,
de se pardonner.
Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur, mais c'est des erreurs qui ne pardonnent jamais. T'en fais une dans ta vie, il y a du monde qui va mourir. Quand on parle de contrôleur aérien, puis souvent d'un hôpital, c'est ça aussi. Tu fais une erreur de diagnostic, ça se peut que tu l'ailles sur le cœur longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à cause de toi, tu sais. C'est je sais pas comment vous faites. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent à qui c'est déjà arrivé. Puis c'est dans un autre contexte, mais t'sais, c'est pas tout le monde non plus qui est capable de faire face à la mort. T'sais, des policiers qui sont formés pour ça, puis qui font des tests, puis qui font des études, puis qui font des simulations, des ambulanciers qui sont formés pour ça, puis qui font des tests, puis qui font des simulations. À un moment donné, ils arrivent sur le terrain, puis la première fois, ils voient un mort pour vrai, pour la première fois, puis ils se rendent compte, « Oh, je suis pas capable de faire ça, moi. Je suis pas capable de faire ça, moi, je panique. C'est trop. »
Ben moi, j'ai...
Puis je comprends, tu sais. Il y a une maudite différence entre lire un livre où on te parle, « Voici quoi faire quand la personne est décédée ou quand t'échappes la personne. » Tu sais, parlons des ambulanciers. Mm-hmm. T'essayes de réanimer quelqu'un, tu sens le pouls, puis à un moment donné, tu le sens plus.
J'ai une connaissance qui a commencé son métier de paramédic il y a 2 ans et demi, mettons, environ. Puis dans ses stages, déjà en partant, en sortant de l'école, cette personne-là est tombée sur un cas de pendu.
Tu sais...
C'est pas
des
comment tu
images
réagir,
qui
hein?
frappent en tabarnouche, tu sais, puis qui sont pas comme on pense ou comme dans les films. Puis cette personne-là finit par se ramasser il y a quelques mois en comment t'appelles ça, en patente fermée parce qu'elle a eu un choc post-traumatique, ouais. Donc elle a été traitée évidemment avec son employeur et tout là. Puis sort du métier. Va devenir travailleur social pour aider les métiers d'urgence parce que cette personne-là s'est rendue compte que, OK, pour ma santé mentale puis pour mon cerveau, c'est beaucoup trop les images que tu peux voir. Là.
C'est la semaine passée que j'ai enregistré un podcast avec le sympathique photographe du soleil. Rappelle-moi son nom, Audrey.
Steve Jolicoeur.
Steve Jolicoeur, oui. Il est venu nous parler, lui, du soir de la tuerie de l'Halloween dans le secteur du château Frontenac. T'sais. Puis on parlait d'images où lui est le premier arrivé, même avant les policiers, des fois, sur une scène de crime. Mm. T'sais, il y a du sang partout. T'arrives à un endroit où quelqu'un s'est enlevé la vie avec un shotgun. Ça a spreadé à grandeur. T'arrives à la tuerie de la mosquée. Mm-hmm. T'sais, c'est toutes des affaires qu'il a vécues. Hein? Puis on parlait justement de la job de photographe où tu penses peut-être que tu es faite pour ça, mais la première fois que tu arrives sur une scène de crime, tu te rends compte que tu n'as pas le cœur assez solide. Mm. T'sais, ça arrive.
Ah, oh, mon Dieu, ça doit être épouvantable.
Fait que saluez le fait que vous avez peut-être un petit job tranquille aujourd'hui. Puis si jamais vous faites une gaffe une fois de temps en temps puis qu'on ne peut pas vous en tenir trop rigueur, ben tant mieux. Tant mieux, j'imagine.
Saluez vos proches ou les gens que vous connaissez qui font peut-être des jobs de marde pour sauver nous autres, pas assez courageux de le faire. Là.
Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui nous raconte son histoire, tu sais, je parlais de la petite fille qui est décédée après une crise d'asthme dans un hôpital de Gatineau où la mère dénonce le fait qu'on ne s'est pas vraiment occupé d'eux autres puis qu'on ne l'a pas pris au sérieux. En 2020, mon fils de 12 ans a eu une tumeur derrière son œil, plusieurs opérations, plusieurs hospitalisations, beaucoup d'infirmières qui se foutent complètement de comment il allait, de nous, les parents, etc. Elles sont dans leur routine. Je pense que certaines personnes deviennent blasées et avec moins d'empathie. La fatigue, l'accumulation et ainsi de suite. Les gens deviennent de moins en moins empathiques. C'est dommage. L'humanité devra changer. Je suis d'accord avec le constat de fond. Puis en même temps, je m'imagine que quelqu'un qui vit dans le bordel hospitalier à tous les jours, ça devient pour plusieurs la seule façon de survivre, de voir ça comme une job qui a une certaine routine. Puis oui, le défaut, c'est qu'à un moment donné, tu négliges les gens qui sont pas là à tous les jours puis qui ont besoin de se faire rassurer, qui ont besoin d'humanité. C'est pas évident. C'est vraiment
pas évident. C'est toute une question philosophique.
Ouais, on part ça rough hein, comme semaine, je trouve.
T'aimes-tu mieux avoir affaire avec quelqu'un qui semble mécanique, mais que c'est sa manière de voir tous les angles morts, d'avoir quelqu'un d'empathique qui risque de se faire prendre par l'émotion?
Je sais pas si je l'ai raconté ici, Véro, mais je sais que je l'ai déjà raconté à la radio. Médecin du CHUL après qui on attend pendant une journée. Puis on attend. Puis on attend. Puis on a hâte d'avoir des résultats, on a hâte d'avoir des conclusions. J'étais avec mon plus jeune à l'hôpital. La mère est là, moi je suis là, le kid est là, puis on attend. T'sais. Puis on croise beaucoup de personnel. Ah, vous êtes avec docteur un tel? Ouais, ouais. Il est en retard, hein? Ouais. Normal. OK, oui, docteur Untel. Oui, vous étiez supposé le voir à quelle heure? On était supposé le voir à 14h. Il est rendu 16h30. Ah, c'est normal, c'est souvent comme ça avec docteur Untel. Fait que moi, dans mon manque de patience légendaire, je commence à me crinquer.
Tu te brosses un personnage?
Je commence à me crinquer comme un gros cave qui se fait réveiller par une alerte en berre puis que c'est le drame de sa vie, là, pour faire une image. Fait que là, je me crinque, puis je me dis... Quand ce monsieur-là va arriver, je vais lui dire ma façon de penser. On est traité comme du bétail, ça n'a pas de maudit bon sens, puis quel manque d'humanité, puis ci, puis ça. Le médecin arrive, il est rendu 5h30. La plupart du monde ont fini leur chiffre, ils ont sacré leur camp. Ça fait une demi-heure que je regarde le monde sortir avec leur boîte à lunch puis leur sac à dos, tu sais. Puis je me dis, coudon, vas-tu passer la nuit ici, nous autres? Y a-tu quelqu'un qui va venir nous dire, ah, votre docteur un tel?
Ah, il vous a oublié.
Ah, il est parti depuis une heure. Va falloir revenir. J'étais déjà bleu marin, là, je serais devenu mauve vif. Finalement, le médecin arrive 5h30. Il s'assoit avec nous autres. Il dit, OK, je veux prendre le temps de vous expliquer comme faut tout ce que personne ne vous a expliqué. Puis commence à nous parler de notre fils, de son état, avec énormément de détails, comme un prof d'université. Il prend le temps. Puis après ça, il dit, dès que vous avez une question, arrêtez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis là, j'ai compris pourquoi ce monsieur-là prenait du retard. Parce qu'il se crise de la machine, puis il garde le côté humain. Puis toute la colère que j'avais bâtie pendant mon après-midi là, a fondu. Là. Juste parce que j'ai eu un contact humain avec quelqu'un qui était capable de répondre à toutes nos questions, puis qui n'avait pas de l'air pressé. Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, la personne arrive, elle met un pied dans la chambre d'hôpital, mais l'autre pied reste dehors. Mm. Parce que ça presse. Faut qu'il reparte. Oui, le monsieur accumule des retards dans ses rendez-vous, mais c'est parce qu'il fait sa job différemment. Il a fait avec humanité, il a fait avec empathie. Encore aujourd'hui, je m'en souviens de ce monsieur-là. T'sais.
C'est fou, hein?
Oui. Ça porte à réfléchir sur plusieurs choses. Puis le témoignage de l'auditeur qui nous a écrit tantôt concernant son fils, ben c'est un peu ça. T'sais, quand tu as l'impression de te faire traiter comme du bétail dans un hôpital où on soigne de l'humain, t'as l'impression que les gens t'abandonnent autour de toi. C'est tough à accepter.
Des fois, ça mériterait une transparence, par exemple. Puis ce que je vais te raconter n'a absolument rien de grave. Je devais passer un IRM il y a plusieurs mois déjà de ça pour un examen que j'attendais depuis 4 ans.
Ouais.
Puis quand je suis arrivée à mon rendez-vous...
On appelle
rendez-vous...
ça la routine hein, dans, le ouais. monde, oui, dans le monde de la santé.
C'est un peu inquiétant parce que quand le médecin m'a vu, il m'a dit, en tout cas, si ça avait été grave, sachez juste que vous seriez peut-être plus de ce monde. Fait que c'est une bonne nouvelle, probablement que vous n'avez rien. Ouais. Oh, super! Ouais, mais ceci dit, la personne que j'ai vue qui m'a installée pour l'IRM, le rendez-vous a comme commencé une heure en retard. Mm-hmm. Puis à un moment donné, au bout d'une quarantaine de minutes, elle est sortie. Puis dans la salle de temps, elle est venue me voir et elle m'a dit « Écoutez, Mme Pinchot, je suis vraiment désolée du retard. On a eu quelques cas qui se sont compliqués. J'ai pas eu le temps de manger depuis 6 heures ce matin. Est-ce que vous me permettez juste de prendre une bouchée parce que j'ai l'impression que je vais tomber et je pourrais pas faire votre examen comme du monde, tu sais? » Mais juste d'avoir cette transparence-là, tu vois, moi, l'espèce de petite rage, de, on est tout le temps en retard, on est tout le temps de savoir que cette pauvre femme-là, elle faisait un chiffre avec de l'overtime, puis depuis 6 heures, elle n'avait pas mangé une foutue bouchée. Puis moi, c'est pas pressant, tu comprends, là, je t'en vis, je vois bien, c'est pas urgent. Mon, t'as dit, va manger, c'est pas grave, tu sais. Je sens que ça pourrait user un peu plus de transparence, par exemple, des fois, pour amener ce côté humain-là aussi.
Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, qui répond un peu, puis qui renchérit sur le témoignage qu'on a reçu tantôt. Épuisement d'empathie touche beaucoup de professionnels de la santé.
Ouais,
c'est beau comme expression, c'est tragique aussi, ouais. là, l'épuisement d'empathie. Mmh. Des fois, il faut prendre le temps de respirer, se ramener à ce que les patients vivent pour ne pas oublier qu'eux autres sont là pour une souffrance. Nous, on est dans l'habitude, parfois dans notre routine. C'est tough parfois parce qu'on a des patients difficiles, mais en tant qu'intervenant en santé mentale, chaque patient a son importance. Et même si tout va vite, trop vite, il faut prendre le temps d'écouter et d'entendre ce qu'ils disent.
Puis, on a tendance à oublier que quand ils arrivent à job au vestiaire, il n'y a pas une petite case pour... soucis personnels.
Ben non.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ça vient se rajouter dans une marmite qui était peut-être enlignée pour déborder cette journée-là.
Je me rappelle encore, il y a environ 12 ans, nous écrit Claude, j'ai assisté les paramédics à extraire un homme victime d'un sévère accident. Je tirais sur ses jambes en guenille. Oh. Il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. Mon choc thermique. Oh, que je me rappelle. Claude, c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez peut-être, je pense, en fin de semaine, Babu.
Ah oui,
oh, mon Dieu, oui.
Qui a accompagné les derniers moments de quelqu'un qui a subi un accident de la route.
Un jeune de 25 ans, je pense.
Ouais. Ouais. Lui est arrivé sur les lieux, puis il n'y avait pas grand-chose à faire là, de ce qu'on comprend, mais la personne était encore en vie, puis Babu a été là pour l'accompagner dans son dernier souffle, là, littéralement. Là. Ça doit être des expériences qui marquent de plein de façons. Ça commence deep un peu, là, mais c'est ce qu'on se permet de faire une fois de temps en temps dans le retour. Il n'y avait rien au programme, puis la vie et la conversation nous ont amenés là. Si vous avez des choses à partager, gênez-vous surtout pas.
88. Mais ça remet les idées drettes, moi, je trouve, en début de semaine.
Ben oui, quand même.
Finalement,
quand même.
Les valises sont faites. Pas facile, mais
pas grave. Pas bien grave, hein? On va bien.
Hein? Mettons que tu t'es fait réveiller par une alerte Amber en fin de semaine.
Grave,
on peut, hein? on peut passer outre, je pense,
et ça a fait la conversation toute la fin de semaine.
Ouais, on va s'en reparler tantôt. Puis d'ailleurs, la SQ vient juste de publier une vidéo qu'on va pouvoir écouter ensemble où ils répondent aux questions et aux plaintes de la fin de semaine.
C'est bon.
Parce qu'il y avait du monde fâché de se faire réveiller. Hein? Hey, dérangez-moi pas avec des enfants disparus. Là. Moi, je dors de mon beau petit sommeil.
De fin de semaine.
De fin de semaine, ben oui. 418-971-1021 pour nous rejoindre par texto. Vous êtes déjà nombreux à le faire. On vous salue. 780-1021 dans le 418 par téléphone. On revient. Gravel. On est là. 2h30, 14h30. Bon lundi, bon début de semaine, pitout, c'est Gravel dans le retour à Boulevard. S'il y a des problèmes sur les routes ou ailleurs, 418-971-1021. On va se brancher avec le maire Bruno Marchand, 16h30 cet après-midi. Les nouveaux parcours alternatifs du RTC qui sont en place depuis le début de la fin de semaine. On se félicite d'un premier week-end où ça a relativement bien été. Mais des centaines et des centaines et des centaines d'appels qui ont dû être gérés, particulièrement aujourd'hui, là, de gens qui étaient un petit peu perdus en fin de semaine. La plupart des gens sont au courant qu'il y avait des changements qui s'en venaient, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont peut-être été pris de court un peu aussi.
Je pense que c'est ceux qui le prenaient de manière ponctuelle.
Ouais.
Parce que, tu sais, la semaine passée, notre collègue Mathias Turcotte, qui est notre journaliste sur le terrain, est allé faire un vox pop, puis les gens qui y a parlé, tu vois que c'est des habitués qui prennent l'autobus fréquemment, au moins à quelques fois par semaine. Fait qu'eux le voyaient très, très bien, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui le fait juste la fin de semaine. T'sais, je ne sais pas dans quelle mesure l'affichage avait été fait la fin de semaine auparavant, ou encore qu'une fois de temps en temps, ils vont prendre l'autobus parce que ça donne, parce qu'ils n'ont pas le char, qu'ils ont un déplacement à faire. Ça se peut qu'à ce moment-là, ça devienne mêlant. Mmh.
Fait que si vous avez des questions pour le maire Marchand, ce sera aux environs de 16h30 cet après-midi. Vous avez juste à nous écrire ça sur le Messenger de Boulevard ou encore au 971-1021.
La grosse histoire aujourd'hui, ça demeure cet accident d'avion-là qui a eu lieu hier soir du côté de l'aéroport LaGuardia à New York vers 23h40. C'est un vol d'Air Canada qui est en fait un vol Jazz Aviation avec à son bord 72 passagers, 4 membres d'équipage à bord qui s'est enligné pour atterrir, alors qu'au même moment, il y avait un camion de pompiers de l'aéroport qui s'enlignait 160 km/h, la vitesse de l'avion au moment de l'impact. Les images, on voit que le nez de l'avion est carrément disparu. Ça a d'ailleurs coûté la vie aux deux pilotes de l'avion. Il y a l'identité d'un des deux qui a été dévoilée, Antoine Forêt, 30 ans, de la Montérégie, qui est donc décédé. Pour ce qui est des passagers, ils ont été transportés à l'hôpital. Puis un peu plus tôt ce matin, on disait qu'il y avait 32 personnes qui avaient déjà reçu leur congé de l'hôpital, mais d'autres étaient traitées pour des blessures graves. Avez-vous vu l'histoire de la jambe de bord québécoise?
Celle qui a été éjectée de l'avion puis qui a survécu.
Pensez à, si vous avez déjà pris l'avion, la plupart des sièges vont être alignés vers l'avant de l'appareil, mm-hmm. et les sièges à jambe de bord, il y en a certains qui vont faire face aux passagers.
Ils sont assis puis ils nous regardent.
Exactement. Fait que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, ces personnes-là vont être à même de réagir. Elle avait le premier siège avant la cabine de commandement. Et le siège a été carrément éjecté. Puis attention, je ne vous parle pas d'un mécanisme d'éjection. Là, on n'est pas dans un CF-18, là, mais avec la force de l'impact, ce siège-là a été poussé à une centaine de mètres de la carlingue de l'avion. Elle n'est pas morte. Elle a été blessée sévèrement. Elle va avoir, entre autres, une chirurgie pour une jambe cassée. Mais cette femme-là a survécu. C'est spectaculaire que ce soit arrivé. Elle s'appelle Solange Tremblay. C'est une Québécoise. C'est sa fille qui a parlé à TVA un petit peu plus tôt cet après-midi. Dans ce qui s'est passé, c'est tragique. Il y a eu 2 décès, mais c'est un miracle. Là, il y a actuellement des enquêtes de la part du Bureau de la sécurité dans les transports du Québec, du Canada, la même chose du côté des États-Unis. Puis tout porte à croire que ce serait des problèmes de communication. Et depuis plus tôt aujourd'hui, il y a un échange qui circule avec les gens de la tour de contrôle qu'on peut entendre au moment où on donne l'OK au camion de pompiers pour se rendre vers un avion de United Airlines où le pilote avait signalé une odeur. Et le moment où on se rend compte, crap, on n'aurait jamais dû donner l'OK, il y avait un avion qui, lui, était prêt à atterrir.
Who's the vehicle needs to cross the runway?
Truck 1 and Company, LaGuardia Tower.
Truck 1 and Company.
Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta.
Truck 1 and Company, cross 4 at Delta.
Truck 1 and Company, 4 at Delta.
Frontier 4195, just stop there, please. Stop. Truck 1, stop.
Oh.
Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. Delta 2603, go around, runway heading 2000. Jet 646. Jet 646, I see you collide with vehicle there, just hold position. I know you can't move. The vehicle's there flying to you now. Vehicle 98.
Vehicle 98, please show at this time. Runway 422 is closed. 422 is closed at this time.
Tower, car 90, LaGuardia Airport is closed at this time.
Frontier 4195, I got the word that we're going to be closed for a little while. If you want to prepare to return to the ramp, let me know.
Yeah, we got stuff in progress for that, man. That wasn't good to watch.
Yeah, I know I was here. I tried to reach out to my stuff, and we were dealing with an emergency earlier. I messed up.
No, man, you did the best you could.
Hey, grounded here, 5393, is the airport going to get closed? Do we need to stay put here or no?
5393, just remind me your position. I'm a little busy.
Okay, we'll hold our position. Yes,
no, remind me where you are.
Oh, I'm sorry, sir. We just pushed from gate Charlie 70, so we're in lane 1516 area.
Okay, all right. Yeah, I was informed that the airport field's going to be closed for a while.
Okay, understood.
Sorry, it's going to be closed all night. Never mind. So, plan on returning. If you can sort that out with your ramp.
Understood, sir. Thank you.
T'entends la voix du gars quand il dit « I messed up ». Elle est éteinte.
Bien, chronologiquement, ce que vous venez d'entendre, c'est les autorisations qu'on donne au départ pour le camion de pompier de traverser la piste.
Ouais.
Pourquoi le camion de pompier avait besoin de traverser à ce moment-là?
Parce qu'il y a un pilote de United Airlines qui a mentionné qu'il y avait une odeur suspecte. Fait que dans ce temps-là, on ne prend pas de chance. On envoie la sécurité pour aller valider quoi que ce soit. Puis clairement, il y a eu un problème de communication entre l'OK qui avait été donné à l'avion d'Air Canada de Jazz Aviation pour aller atterrir sur la piste 4 et le camion qui, lui, s'est dirigé là-bas. Puis,
là,
clairement,
on entend la personne dire stop, 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 stop. Il vient de se rendre compte
qu'il y aurait impact. Là.
C'est ça.
T'sais, l'avion arrive à 160 km/h. C'est pas comme si, mettons, c'était peinard comme affaire. Pour ce qui est des deux officiers qui étaient à bord du camion, on parle d'un état stable avec des blessures qui mettent pas leur vie en danger, mais le camion aussi est quand même assez démoli. Donc, ça continue de faire jaser énormément. À 14h cet après-midi, l'aéroport LaGuardia reprenait ses activités. Mais ça a eu un impact sur la sécurité aérienne à court terme, là, sur les vols, mais ça sera de voir les enquêtes, puis qu'est-ce qu'on va pointer du doigt comme ayant été l'origine de tout ça. Fait que ça retient énormément l'attention aujourd'hui. Puis un petit peu plus tôt, ce matin, vers 7h30 à peu près, t'as trois gros aéroports à New York, t'as LaGuardia, t'as JFK, puis t'as Newark quand t'atterris au New Jersey, qui est peut-être celui qu'on prend le plus ici, parce que c'est souvent là qu'il va y avoir des transferts. Il y avait une alerte aussi. On a fermé l'aéroport pendant une heure parce qu'il y avait une fumée qu'on n'avait pas encore trouvé l'origine. Fait que ça a été un drôle de matin pour ce qui est de l'aviation.
Donc, évidemment, c'est l'histoire qui retient l'attention, les victimes qui sont le pilote et un copilote.
Exactement.
Dans les circonstances, on peut dire que c'est presque un miracle.
Absolument.
Parce que l'avion était plein.
Ouais.
Moi, j'avais pas compris ça au départ. Je me disais, s'il y a juste deux morts, d'après moi, c'est que l'avion était vide.
72 passagers.
Et tabarnouche. Donc, les activités qui reprennent du côté de l'aéroport LaGuardia à New York. Puis, évidemment, si on a des détails supplémentaires dans le courant de l'après-midi, on va être en mesure de vous les partager. On connaît maintenant l'identité là, d'une des deux victimes. Oui.
Antoine Forêt, 30 ans. Puis tu vois, dans les détails, là, il y a une piste d'atterrissage qui demeure fermée au moment où on se parle, vraisemblablement pour terminer l'enquête.
14h38, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre au
retour. En fait, ce que vous faites à la radio, ça, j'aimerais bien, je crois.
C'est le retour de Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
h 42. Pour les gens au Québec qui ont été déroutés par les dernières semaines, avec Angine de poitrine et sa musique bizarre... Ben, revenons à nos moutons. Céline, elle va revenir, là.
Hey, mais
qu'est-ce qu'a fait Céline, là?
À l'ère où on est tellement sur Internet, sur les médias sociaux, Céline Dion va annoncer son grand retour du côté de Paris, mais on y est allé avec des affiches dans les rues. Et c'est ça qui a commencé à faire jaser.
Oui, il y a juste des bouts de ses chansons.
Exactement, ouais. Mais j'ai tellement trouvé l'idée originale parce que, tu sais, on n'avait rien mis encore sur Internet. Là, elle a mis des photos d'elle de sa plus tendre enfance jusqu'à maintenant, face à des monuments de Paris. Tu vois tout le temps la Tour Eiffel en arrière.
C'est en France qu'elle va revenir?
Oui, ce sera en France qu'elle ferait son premier gros spectacle ou peut-être même... Tu sais, c'est très à la mode de faire des résidences à l'extérieur de Vegas.
Oui, parce que
là... On a parlé dans les dernières semaines.
J'ai-tu manqué un bout, mais la dernière fois que j'ai entendu parler de Céline puis de son état de santé, c'était dans le fameux documentaire...
Oui, un peu après ça, on l'a vu pour les Olympiques.
Oui, pour une performance. Ouais. Mais entre faire une performance encadrée, unique, dans un contexte...
Sur laquelle elle a travaillé
mauditement. Oui, exact. Il me semble que la marche est haute entre... faire ça, puis revenir pour faire des concerts au complet.
En tout cas, ça reste à voir parce que, selon certains, l'annonce se ferait dans une semaine, le 30 mars, journée du 58e anniversaire de naissance de Céline Dion. Puis on la voit beaucoup plus dans les médias. Puis si on la voyait au départ, puis elle n'avait pas l'air en santé, depuis qu'on l'a vue aux Olympiques de Paris, chaque fois qu'elle a fait des sorties, elle est très TikTok ces temps-ci, là. Ma tante Céline sur TikTok, là.
Elle est pas mal moins épeurante que Britney sur TikTok.
Eh bien, exactement. Te... Puis, c'est drôle parce que...
Elle est cringe, mais pas que c'est Céline, c'est
ben,
drôle.
C'est Céline, c'est ça.
Ça fonctionne. Ça marche. C'est bien une des rares personnes qui peut se permettre d'être cringe sans que les gens fassent comme « Ah, arc, là! » Fait que ce serait une série de spectacles qui serait annoncée. Mais j'aime qu'on y soit allé avec quelque chose de physique pour commencer à faire partir la machine à rumeurs. Puis là, c'est... les médias sociaux des autres dans ce temps-là qui font la job. C'est eux qui prennent des photos, qui taguent. Oui. Où est-ce que je l'ai vu? Puis là, c'est t'essaies de faire toutes les pièces du puzzle ensemble. Fait que c'est intriguant.
À suivre, ouais. À suivre. 3h15, on regarde le reste de l'actualité, toujours en jetant un œil sur ce qui se passe du côté de l'aéroport LaGuardia. On a fait le point, on vous a fait entendre les enregistrements tout à l'heure qui ont été rendus publics de la tour de contrôle. Ouais. On vous rappelle une tragédie qui a fait 2 morts jusqu'à maintenant.
Il y avait un point de presse du maire de Québec, Bruno Marchand, qui se tenait aujourd'hui. C'est un gros retour à la réalité pour celui qui a passé la dernière semaine du côté de l'Alberta, alors que depuis samedi, c'est les nouveaux parcours du RTC en prévision des travaux préparatoires du tramway qui ont été mis en place. Il y a eu de la grogne vendredi de la part de commerçants pour qui l'information par rapport à la signalisation, donc des rues qui devenaient des sens uniques, leur est parvenue 3 jours avant les changements. Étrangement, le maire a réagi sur ses médias sociaux. Ça faisait longtemps qu'en fait, c'est rare qu'on voit le maire prendre la part des citoyens avant de dire « je vais aller chercher les informations puis je vais vous revenir ». Ça a comme fait du bien, puis oups, le poste a comme disparu. Ouais. J'ai comme fait crime. Je trouvais qu'il avait fait un bon exercice de communication pour une fois.
Ça a même fait la une du Journal de Québec, entre autres, en disant comme « je peux pas croire qu'on a mis nos pancartes 3 jours seulement avant, mais c'est inacceptable ».
Mais là, c'est une forme de coït interrompu parce qu'en enlevant le poste, on sait pas comment s'est terminée cette histoire-là. C'est de la faute à qui? On a-tu trouvé des solutions? Comme dirait l'autre, mais qu'est-ce qui se passe?
Dans le poste qui semble avoir été parti dans les limbes des réseaux sociaux, on pouvait lire « Je suis fâchée en prenant connaissance de ce reportage. On le sait, la période qui commence sera difficile, mais on va prendre soin de notre monde. 3 jours de préavis, ce n'est pas suffisant. J'ai demandé aux équipes qu'on m'explique rapidement ce qui s'est passé. On va vite identifier ce qui n'a pas fonctionné comme prévu et on va faire beaucoup mieux les prochaines fois. »
Il y a raison, en tout cas.
Il y a tout à fait raison.
Faut que tu adresses ces problèmes-là.
Ça fait partie des sujets desquels il doit parler aujourd'hui. Il y a différents éléments. Le RTC, est-ce que ça a bien fonctionné? On a pu voir que dans les communications que le RTC a envoyées, en général, ça a super bien été. Pas eu trop de problèmes. Des gens un peu mêlés de voir les arrêts qui changeaient, mais d'ores et déjà, si vous essayez d'aller prendre l'autobus sur René Lévesque, on a carrément barricadé avec du ruban jaune les abribus qu'on va déménager lentement, mais sûrement sur le trajet du côté de Grande Allée. Même affaire pour ce qui est de Laurier, alors qu'on amène tout ça du côté d'Hochelaga. D'ailleurs, sur le texto 418-971-1021, si c'est des trajets que vous avez fait soit en autobus, soit en voiture, ça a eu l'air de quoi aujourd'hui? Parce que le samedi puis le dimanche, c'est tel que tel. T'sais, c'est des endroits qui sont toujours congestionnés, la portion des centres d'achat, entre autres, mais d'avoir la vraie vie, là, d'avoir les voies réservées qui sont là, comment ça a été pour vous autres? Est-ce que vous y avez pensé dans votre trajet vers la job de prendre Laurier au lieu de prendre Hochelaga? Puis ça a été quoi dans le concret? Est-ce que ça s'est bien réalisé? Je suis curieuse de vous entendre.
On vous rappelle que le maire sera avec nous à 16h30 cet après-midi.
Il y a une bonne nouvelle aussi pour la ville, alors que le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, a confirmé qu'on avait franchi une étape de plus avec la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain. Puis ça sera pas ouvert demain matin, on s'entend, là. C'est vraiment, vraiment pas ça. Mais c'est les appels de qualification qui vont être lancés au courant des prochains jours. Puis on va sélectionner 3 entreprises qui vont être invitées à participer ensuite de ça à la réalisation de la passerelle cyclo-piétonne. Pour vous rappeler, ça va être quoi la fameuse phase 4, là? Ça va être dans le secteur de Dufresne-Montmorency où on va le transformer en boulevard urbain. C'est à une distance de 8,1 km. C'est que c'est un ajout qu'on attendait depuis des années et des années. On a l'impression que la promenade Samuel de Champlain, on a donné tout un boost depuis le 400e, puis après ça, on a pesé sur pause ad vitam aeternam, comme si ça avait pu faire partie des priorités nécessairement depuis que la CAQ avait été élue. Fait qu'au moins, ça va commencer à bouger de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Lévy perd son chef non élu de l'opposition officielle. On sait que les élections générales s'avancent lentement, mais sûrement, c'est au mois d'octobre prochain qu'on va aller aux urnes. Et Serge Bonin va quitter son poste et va solliciter l'investiture pour le Parti québécois dans les chutes de la Chaudière. Actuellement, c'est la circonscription qui est détenue par la ministre Kakis Martine Biron. Lui a été conseiller municipal entre 2021 et 2025 dans le secteur de Saint-Étienne. Puis à la dernière course, il s'était présenté contre Stephen Blainey et n'avait pas été élu. L'autre mystère des candidats pour la prochaine élection, c'est Éric Duhaime qui, demain matin, va confirmer qu'il a convaincu un député indépendant de se joindre au Parti conservateur du Québec. Et là, TVA sort aujourd'hui Maïté Blanchette-Vézina, ancienne caquiste, fait même ancienne ministre caquiste, se joindrait au Parti conservateur.
On le savait, là.
Mais là, c'était... Tu sais, on fait des points de presse communs. Ben oui. Puis elle s'est mise à chanter les louanges d'Éric Duhaime, qui, lui, s'occupait des régions versus la CAQ. Ce qui reste à savoir, puis on dirait que les informations vont des deux côtés. Est-ce qu'elle va porter les couleurs conservatrices dès maintenant? où elle va les porter
pour la
à la prochaine
campagne,
élection, puis rester indépendante. Parce qu'au départ, tout ce qu'elle disait, c'est « j'ai l'intention de rester indépendante jusqu'à la prochaine élection ». Fait que ça, c'est des éléments. Moi, je ne les ai pas vus passer encore. Là, si vous avez les détails, je suis tout à fait preneuse. On va terminer en parlant de Donald Trump, qui, aujourd'hui, a annoncé qu'il avait repoussé des frappes en Iran, qu'il avait commencé des négociations avec les autorités. On est à 24 jours là, de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
24 heures que c'était supposé durer.
Le Fox, c'est du côté de l'Iran. Ils disent que non, ils n'ont pas de négociations avec les États-Unis. Mais c'est fou. Juste sa sortie de ce matin, ça a fait baisser le coût du baril de pétrole.
Mm-hmm.
Fait qu'il est capable de sortir comme ça puis de faire bouger le marché. Mais d'un autre côté, on a rien de factuel là-dedans. Il n'y a pas de sortie officielle de part et d'autre sur lesquelles on peut se fier. Fait que c'est là que nous sommes rendus.
C'est un gars qui a énormément de pouvoir, puis qui le sait. Puis en l'espace d'une phrase, même si ça a été débunké à plusieurs reprises, qui disait à peu près n'importe quoi.
Ça a quand même son effet.
Peut-être que c'est ça le seul impact qu'il cherche, dans le fond, voir qu'il y a encore une influence sur le marché dès qu'il dit quelque chose. Parce que pour le reste, c'est un gars qui s'est mêlé... Il s'est mêlé tout seul, hein? On va dire ça comme ça. C'était une opération qui était supposée durer 24 heures et finalement, il s'en sortira pas tout seul.
Je pensais qu'on avait gagné il y a deux semaines. Ben, pas on, là, on excluant la personne qui parle, le pays au grand complet, là, qui avait gagné.
Ça fait poutine, hein? Ça fait poutine. Dans tous les sens du terme. 14h51, vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour.
Gravel.